Bonjour à tous. Les rangs sont un peu... ça va pour l'instant. Si j'ai soif, je te fais signe. J'enlève. Voilà, nous voyons que c'est la période des vacances, de l'été. Est-ce qu'il y a des gens qui nous visitent ici ou qui viennent pour la première fois ce matin? Là, la première fois. Eh bien, soyez les bienvenus et que le Seigneur vous bénisse. Vous venez d'où? De? Ah, ben vous êtes voisins, Vichy. Et puis? Alors là, c'est un peu plus long. Et je pense que vous avez remarqué que le climat est différent ici, surtout ces derniers temps. Mais nous n'y pouvons rien. Voilà, en tout cas, soyez les bienvenus. Voilà, je vous invite ce matin à nous rendre au bord d'une piscine. Alors vous allez me dire, vu le temps qu'il fait, mais imaginons que nous sommes en été quand même. Et il est vrai qu'être au bord d'une piscine en période estivale, en période de vacances, il faut quand même le reconnaître que c'est bien agréable. Mais la piscine dont il est question n'est pas du tout un lieu agréable de détente et de loisirs. Donc nous allons nous rendre à la piscine de Bethesda où Jésus s'est rendu. Cette histoire se déroule à Jérusalem et il n'y a que l'évangile de Jean au chapitre 5 qui rapporte cet événement. Et cela se passe lors d'une fête que nous lisons au chapitre 5 de l'évangile de Jean et au verset 1 où nous lisons « Il y eut une fête des Juifs ». Et j'observe que cette fête n'est pas nommée. Alors nous pouvons supposer qu'il s'agit peut-être de la fête de Pâques. L'homme en question, l'homme de notre histoire, lui n'a rien à fêter. Il est loin, je dirais même très loin même, de pouvoir participer à la fête. Cet homme se trouve donc à Bethesda. Pourquoi? Parce que Bethesda était visiblement un sanctuaire de guérison. Il s'y trouvait une piscine avec une source intermittente. Et la rumeur populaire vantait des vertus guérissantes. Et c'est la raison pour laquelle un grand nombre de malades, d'aveugles, de boiteux, de paralytiques étaient là rassemblés. Alors, je vous invite à ouvrir votre Bible dans l'évangile de Jean, au chapitre 5. Nous lirons à partir du verset 1 jusqu'au verset 17, afin de bien comprendre cette histoire. Jean, chapitre 5, versets 1 à 17. Après cela, il y eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des paralytiques, des aveugles, des boiteux, qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. » Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus. Prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit, mais celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Ils lui demandèrent, mais qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus, parce qu'il faisait des choses le jour du sabbat. Mais Jésus leur répondit, « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. » Voilà l'histoire. Cet endroit, cette piscine est située, il nous est dit, près de la porte des brebis, qui a été construite à l'époque de Néhémie. En effet, nous lisons en Néhémie 3, verset 1, « Éliashib, le souverain sacrificateur, se leva avec ses frères, les sacrificateurs, et ils bâtirent la porte des brebis. » D'ailleurs, entre parenthèses, en passant, je précise qu'ils en ont construit 12 portes, exactement, car il s'agissait de reconstruire les murailles de Jérusalem, ils en ont construit 12. Cette porte se situe juste, si vous connaissez ou si vous avez été à Jérusalem, non ? Bon, alors c'est une info, hein. Bon, elle est gratuite. Elle se trouve juste en face de la montagne des Oliviers, à côté du temple. Autrefois, par cette porte, on amenait les troupeaux pour paître sur la montagne des Oliviers, justement. Et Bethesda veut dire maison de charité, et c'est un lieu, en fait, où l'on reçoit la grâce. Et sous les 5 portiques de cette piscine, il y avait là toute la souffrance et toute la misère humaine. Des cas désespérés. Il n'y avait pas de secours médical. Des malades rendaient même leur dernier soupir. Toutes ces personnes pour qui le monde ne pouvait plus rien faire, pour qui la société n'avait plus de solution ni de réponse. Et tous ces gens n'attendaient non pas une échographie, ni un scanner, ni un IRM, ni pas plus d'opérations, pas de traitement, pas de médicaments, rien de tout cela. Leur seul et unique espoir était un miracle, et c'est la raison pour laquelle ils étaient à Bethesda. Parce que lorsque le mouvement de l'eau se manifestait, le premier qui réussissait à plonger dans l'eau était guéri. Alors ne me demandez pas par quel phénomène, mais moi je pense que là il devait y avoir une source par intermittent, et dans cette source, l'eau avait des propriétés, avait certaines qualités. Alors, nous allons voir un peu quels sont les personnages qui sont présents dans cette histoire. D'abord, nous avons un malade qui est incurable. D'ailleurs, nous ne savons pas grand-chose de lui. Nous ignorons son nom, son âge, sa situation de famille, sa profession, et d'ailleurs même de quelle maladie il souffre. Nous savons simplement qu'il est malade depuis 38 ans. Et ça veut dire qu'il a passé une grande partie de sa vie là, dans ce lieu, et qu'il ne peut pas se déplacer. Il est certainement sans ressources. Cet homme n'a ni famille, ni amis pour s'occuper de lui. Il doit faire face seul aux difficultés de la vie, puisque personne n'est là pour le pousser quand l'eau se met à bouillonner. Et ici, ce matin, peut-être qu'il y a quelqu'un qui peut dire « Oh, oula, je le comprends, parce que moi aussi je suis seul. » Mais il y a une bonne nouvelle, parce que Jésus aide celles et ceux qui sont seuls et désespérés. Il était trop tard aussi pour lui. Cet homme était toujours en retard. Il n'arrivait jamais au bon moment. Et arriver en retard peut avoir des conséquences fâcheuses. Comme à Bethesda, par exemple. Ce pauvre homme était toujours en retard pour recevoir un miracle, pour être guéri. Et chaque fois que l'eau de la piscine s'agitait, une autre personne l'avait devancé, était plus rapide, et il voyait de loin le mouvement de l'eau. Il entendait autour de lui qu'on en parlait. Il voulait bien plonger lui aussi, mais c'était toujours trop tard, et ça fait maintenant 38 ans que ça dure. En 38 ans, il en a vu des guérisons. Il en a vu des malades sortir, valides. Et lui, il est encore là sur son grabat. Il est aussi sans espérance. Cet homme, depuis longtemps, était résigné. Il ne pouvait plus entendre parler de promesses. Les premiers jours, les premières semaines, il a espéré de tout son cœur. Puis au fil du temps, la déception a fini par le gagner, le dominer même. Il a été déçu tellement de fois qui n'espère plus, sans doute, plus rien. Il n'attend plus rien. En fait, il est tombé dans le négativisme le plus total. Et tout ce qu'il peut dire, je ne peux pas. Pour les autres, c'est OK, mais pas pour moi. Et là, nous avons un autre personnage qui entre en jeu, c'est Jésus. Jésus lui-même. Voilà, il fait son entrée dans l'enceinte de Bethesda. Il parcourt du regard tout ce qui se passe ici. Il observe la scène. Il voit certes qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens malades, handicapés, qui attendent une guérison. Mais l'attention de Jésus se concentre sur un homme en particulier qui est malade depuis 38 ans. Nous savons que Dieu sait tout. Jésus, le Fils unique de Dieu, sait tout également. Ce n'est pas la peine de vouloir cacher quoi que ce soit. Il nous connaît très bien. Et nous lisons au verset 6, « Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» C'est une question bizarre. Je ne sais pas si les disciples accompagnaient Jésus, mais j'imagine qu'un des disciples, vous savez, qui parlait et qui réfléchissait après, s'il avait été à côté de Jésus, j'imagine qu'il aurait lui donné un coup de coude dans les coudes. J'ai dit, mais Seigneur, enfin, ça ne va pas la tête, non? Ça, c'est moi qui imagine ça. Vous savez, des fois, mon imagination me joue beaucoup de tours. C'est une question bizarre. On va y revenir. Jésus pose cette question à un homme qui est immobilisé depuis 38 ans et qui attend un miracle. C'est vraiment étrange. C'est comme si vous trouviez une voiture accidentée avec un blessé coincé par la carrosserie et que vous lui disiez « Hé, l'ami, veux-tu que j'appelle les secours ?» Ou, par exemple, si votre mariage est en train de tomber en morceaux, chaque jour, vous vous disputez, il n'y a pratiquement plus de vaisselle parce qu'elle a tellement volé dans l'appartement, donc avec violence, avec votre conjoint, et que vous en souffrez, est-ce que ça serait censé de vous demander « Est-ce que tu veux un mariage heureux ?» Ou, si vous avez un problème physique qui est vraiment une source de souffrance depuis longtemps et que quelqu'un vous dise « Hé, tu veux pas aller mieux ?» Qu'est-ce que vous en penserez? Personnellement, je trouverais cette question stupide. Mais c'est Jésus qui pose la question. Et Jésus ne pose pas de questions stupides, enfin que je sache. Revenons à Bethesda, lieu de misère et de souffrance. Voilà qu'ici, nous avons la miséricorde et la compassion présentes en la personne de Jésus lui-même. Jésus voit un homme malade depuis 38 ans. Personne ne le regardait. Il était abandonné depuis longtemps. Autour de cette piscine, c'était du chacun pour soi. Et Jésus voit chacun. Il prend le temps de poser son regard sur chacun, même ici, ce matin. Et ceux qui attendent un miracle depuis des années, miracle de guérison, que des enfants se convertissent, qu'une situation de couple s'arrange, qui ont prié, espéré depuis si longtemps, même ceux qui ont déjà perdu tout espoir. Écoutez ceci, frères et sœurs. En Luc 18, verset 27, Jésus dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Donc Jésus voit ce malade couché. Jésus voit notre véritable condition. Jésus voit tous les cas Bethesda. Parfois, si l'on marche dans la rue, on pourrait voir Bethesda écrit sur le front quand on croise des personnes. Non ? Jésus se sent attiré vers les misérables. Il ressent comme eux et il les comprend. Jésus savait que cet homme se trouvait là depuis longtemps. Jésus sait tout sur nous, je le répète. Notre passé, nos péchés, nos défauts, mais aussi nos désirs, nos ambitions, nos espoirs. Mais ce qui est important, ce n'est pas seulement que Jésus nous voit, mais c'est aussi la manière dont il nous regarde. Parce que Jésus ne nous regarde pas comme les gens, mais comme Dieu nous voit. Et quand les gens disent « Cap Bethesda », sans espoir, impossible, inchangeable, incorruptible, incurable. Pour chacun, Jésus voit un cas qui n'est jamais, jamais désespéré. Nous connaissons bien ce verset de Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous pouvons mettre notre propre prénom dans ce verset. Je vais en faire la démonstration devant vous. Car Dieu a tant aimé Yvan qu'il a donné son Fils unique afin que Yvan croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Excuse-moi, Yvan, il fallait que je prenne un exemple. Mais on peut le faire pour chacun, et c'est vrai. Voilà là une promesse, une parole de la part de Jésus qui est vraie, certaine et affirmative. Maintenant, je vais ouvrir une petite parenthèse parce que vous comprenez bien que cette histoire, il y a tellement de choses à en retirer. Là, j'ouvre une parenthèse pour parler, juste dire un mot des Juifs. Au verset 10, il en est parlé. Vous savez, c'est les Juifs dont il est question là, ce sont ces gens religieux sur le bout des doigts. Ils sont capables de citer la loi sans oublier une virgule ni un point à la ligne. Faites ce que je vous dis, mais faites pas ce qu'on fait. C'était un peu ça. Donc les Juifs responsables interpellent donc l'homme qui venait d'être guéri, parce que c'est le jour du sabbat. Tu n'as pas le droit de porter ton lit. Est-ce que tu sais que nous sommes le jour du sabbat? Ils ont d'ailleurs poursuivi Jésus parce que Jésus, lui, il guérissait même le jour du sabbat et il voulait le tuer pour cela. Et bien sûr, c'est tellement un sujet vaste que ça peut faire l'objet d'une autre prédication, mais je voudrais vous dire ceci. Dès qu'il se passe quelque chose de spirituel dans la vie de quelqu'un, ça risque d'être difficile. Parce qu'il y en a un, à savoir l'ennemi de nos âmes, qui va trouver un reproche à faire, une critique, tout pour nous faire douter, pour nous faire même abandonner. Sachons cela, ayons ce réflexe. Mais nous n'avons pas à avoir peur. Pas du tout. Au contraire, c'est même lui qui doit avoir peur de toi, de moi. Faisons comme cet homme qui répond, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. D'ailleurs, Jésus leur répond aussi au verset 17, moi, mon Père travaille jusqu'à présent et moi, je fais pareil, je travaille. C'est-à-dire, je guéris les malades. Il nous faut toujours répondre par la parole de Dieu. Souvenons-nous quand Jésus a été emmené dans le désert et qu'il a été tenté. Jésus a toujours répondu par la parole au diable. Bon, ça c'est un autre sujet. Je ferme la parenthèse. Je reviens à cette question bizarre. Et c'est vrai que quand on lit comme ça cette histoire pour la première fois, on peut avoir les bras qui nous en tombent. Question bizarre, veux-tu être guéri ? Mais enfin, après 38 ans de maladie, quel malade ne veut pas être guéri? Après 38 ans de souffrance à attendre, cette question a une résonance étrange chez cet homme. Il entend le mot guérison comme c'est étrange, voire même impossible. Mais Jésus le voit couché, mais pas incurable. Là où nous voyons un paralytique, Jésus voit un homme marcher. Là où nous voyons un cas désespéré, Jésus voit un miracle. Là où nous voyons quelqu'un qui n'a plus rien à attendre de la vie, Jésus voit un avenir merveilleux. Et qu'en est-il de nous, de toi ce matin? Est-ce que tu te regardes et tu te dis, pour moi, de toute manière, c'est fichu, je n'ai plus rien à attendre. Peut-être que d'autres disent, oh pauvre femme, oh pauvre homme, oh pauvre jeune. On ne peut plus rien faire pour lui et pour elle. Ce matin, Jésus nous pose cette question personnellement. Veux-tu être guéri ou veux-tu que je fasse quelque chose pour toi ? En fait, Jésus ne fait rien sans que nous le voulions. Pardon, la guérison, la délivrance, ça ne vient pas automatiquement. Non, Jésus ne regarde pas une personne ni une situation en se disant « impossible, je passe ma route ». Non, mais il attend notre participation parce qu'il respecte la liberté qu'il nous a donnée. Puis, j'aime bien me souvenir de cette parole, de ce texte de l'auteur de l'Épître aux Hébreux en 13, verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça, c'est pour celles et ceux qui pourraient penser, oh, oui, mais ça s'est passé il y a 2000 ans. Non, Jésus est toujours le même. Voilà que Jésus lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. J'observe que là, c'est trois ordres. Jésus aurait pu dire, écoute mon ami, est-ce que tu ne voudrais pas essayer quand même, malgré ta situation, de te lever, de faire un effort, essaye quand même pour voir si vraiment... Non ? Trois ordres. Bref. Lève-toi, prends ton lit et marche. C'est Jésus qui détermine comment, quand et qui il touche. Parfois, nous voulons décider nous-mêmes du quand et du comment. Nous nous fabriquons la réponse de Dieu. Nous croyons, mais nous avons des idées préconçues. Cet homme malade depuis 38 ans entend quelqu'un qu'il ne connaît pas lui dire « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Il a dû penser, mais c'est une blague. Il se moque de moi. Il aurait pu refuser, rester couché, penser, mais ça n'a jamais réussi depuis 38 ans. Pourquoi maintenant ça marcherait ? Et puis, de toute façon, à Bethesda, on guérit seulement quand on plonge dans l'eau de la piscine. Personne n'a à me dire, lève-toi, prends ton lit et marche, mais plutôt... à m'aider, à me porter et que je sois le premier à plonger dans l'eau, dans la piscine. Oui, comme ça, je serai guéri. Non. Mais il a obéi aux paroles de Jésus. Jésus n'a pas besoin de piscine. Jésus n'a pas besoin d'attendre que l'eau s'agite. Jésus ne lui dit pas, attends mon ami, attends. Ne t'affole pas, je vais t'aider, je vais te prendre sous les épaules et je vais te... mettre debout sur les pieds et puis quand l'eau va s'agiter, on va sauter ensemble dans la piscine. Non, rien de cela. Mais lève-toi. Ne reste pas couché dans ton besoin, change d'attitude. Ne crois plus que tu sois un cas désespéré, qu'il n'y a plus d'espoir ni d'avenir pour toi. Arrête. Et puis, prends ton lit. Finis avec ce qui t'a retenu. 38 ans lié sur ce grabat. Et non, tu sais, laisse ton lit ici parce que réserve ta place pour le cas où le miracle ne marche pas. Comme ça, tu pourras toujours retourner à ta vie de misère et de souffrance. Non, Jésus ne donne pas de solution provisoire à nos besoins, mais un pardon, une guérison, une délivrance totale. Et puis, marche. C'est un ordre impossible pour un handicapé. Croyez-vous que maintenant, ce que vous demande le Seigneur est impossible. Si Jésus dit que vous le pouvez, alors vous le pouvez. Et aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Et puis Jésus disparaît dans la foule. Alors évidemment, les Juifs demandent à cet ancien malade qui lui a dit de porter son lit un jour de sabbat. Mais l'homme ignorait qu'il l'avait guéri. Peu de temps après, Jésus rencontre l'homme guéri dans le temple. Et son premier réflexe a été d'aller au temple, il me semble. D'ailleurs, au verset 14, Jésus lui dit, « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Et cette parole de Jésus, il me semble, indique la raison pour laquelle cet homme était malade depuis 38 ans. C'était la conséquence du péché. Nous n'avons pas plus de détails, parce que je pense que ce n'est pas important. Maintenant, ne pensons surtout pas, ça je tiens à le dire, que toutes celles et ceux qui sont malades le sont à cause d'un péché. Ce serait faux. Je le répète, parce que je sais que dans certains endroits, cela se dit. Mais non, ce n'est pas juste de dire ça. La question de Jésus, veux-tu être guéri ? Est donc une remise en question. Parce que avant de nous aider, Jésus dit à ceux qu'il rencontre, veux-tu t'en sortir ? En un mot, je peux t'aider dans tes difficultés, mais il faut que tu sois d'accord et prêt à changer certaines choses dans ta vie. La question du Seigneur soulève donc un problème qu'on veut souvent ignorer. Nous avons souvent le désir de changer, mais sans effort. On veut des résultats, mais on ne veut pas y travailler. On ne veut pas abandonner certaines choses. Et avec cette histoire, on voit qu'il y a notre part à faire. Quand le Seigneur nous montre quelque chose, appliquons-nous à obéir et à faire face à nos responsabilités. Dans cette histoire, Jésus dit, comme il dit à cet homme, à tous ceux qui veulent bien l'entendre, fais face à tes responsabilités, repens-toi et ne pêche plus. Voyez-vous, Jésus peut guérir notre désespoir. Mais sommes-nous prêts à reconnaître notre faillite et à demander son aide ? Il faut nous poser cette question, peut-être difficile, certes. Est-ce que je veux guérir ? Est-ce que je veux changer ? Est-ce que je veux vraiment que ma situation, mon mode de vie change ? En fait, en un mot, je me pose cette question. Qu'est-ce qui est malade chez moi ? Une partie de mon corps, de mon âme, de mon esprit ? Qu'est-ce qui fait que je souffre dans mon être intérieur ? Jésus me le demande, me pose la question, et quelle est ma réponse ce matin ? Prenons peut-être un temps de réflexion, prenons le temps de lui répondre, en nous souciant toujours de sa volonté, confiant en son amour qui donne plus et mieux que ce que nous demandons. Comme ce malade de 38 ans, guéri, soyons des témoins de ce que Dieu a fait pour nous en Jésus et de ce qu'il fait encore chaque jour pour nous, que ce soit dans les grandes choses comme dans les petites choses de notre quotidien. Je vous invite à prendre un temps de recueillement et puis si quelqu'un se sent porté à élever sa voix devant le Seigneur, eh bien, ayez cette liberté de le faire. Et prenons un temps maintenant.